carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Paul-Louis Rinuit, historien et théoricien de l'art, est le commissaire de la 3e Biennale de sculpture de hier, qui se déroule du 16 septembre au 27 novembre 2011. La Biennale, initiée en 2007 par l'historienne d'art Lydia Arambourg, a permis d'ancrer hier, dans l'Essonne, comme le haut lieu de l'événement. Paul-Louis Rinuit, bonjour.
Bonjour.
La Biennale, pour sa 3e édition, s'affirme comme une référence certaine de la sculpture contemporaine. Les sculptures sont présentées dans le parc de la propriété Caillebotte, qui se prête magnifiquement à l'exposition des œuvres, avec ses doux dénivelés de pelouse verte et ses arbres majestueux. Et la Biennale se poursuit à l'intérieur, dans la ferme Ornée, dans un bâtiment qu'on appelle la ferme Ornée, et à l'Orangerie. Paul-Louis Rinuit, sous quel angle avez-vous souhaité placer cette Biennale ?
Alors, j'ai souhaité placer cette Biennale sous l'angle, d'une part, de la haute qualité, étant donné qu'il y a peut-être moins d'artistes que dans la Biennale précédente, mais un choix plus exigeant. D'autre part, sous l'angle de la contemporanéité, de l'actualité, ce qui n'empêche pas qu'il y ait trois artistes qui sont des références historiques, trois artistes morts, Jean Dubuffet, Germaine Richier et Étienne Martin.
Trois grands noms
vraiment de référence qui donnent un peu le là et l'esprit de cette Biennale, rapport à la matière, rapport à l'imaginaire et le monde du désir, de l'irrationnel. Et un autre point capital, je crois, de cette Biennale, ou peut-être plus accentué peut-être que dans les autres, capital pour nous cette année, c'est l'importance des jeunes artistes, puisque beaucoup d'artistes qui exposent ont autour de 30 ans, sans faire de véritables chiffres, sans doute une dizaine d'artistes ont autour de 30 ans. Donc le poids est du côté de la sculpture de l'avenir, bon, la sculpture d'aujourd'hui, mais aussi largement quand même la sculpture de l'avenir.
Donc il y a une cinquantaine d'œuvres présentées et à peu près une dizaine de jeunes artistes qui sortent.
Alors,
vraiment même des écoles
d'art. En tout, il y a plus de 50 œuvres, hein. Il y en a 80 à peu près. On a, puisque beaucoup d'artistes présentent plusieurs œuvres, étant entendu que certains font des œuvres plus petites, que du coup certains font des ensembles, étant entendu aussi que le choix est un choix de personnaliser l'accueil et l'espace réservé à chaque artiste, et que, par exemple, pour Étienne Martin, qui expose, qui est mort, mais qui expose une œuvre magistrale, le cri se suffit largement à lui-même, donc il y a une seule œuvre, et puis à côté, Olivier Sévère, qui est un jeune artiste, expose un grand marbre et plusieurs sculptures de cristal, puisque là, c'est l'ensemble de ces nombreuses sculptures de cristal qui fait sens et qui fait œuvre, et ça, un véritable sens, un véritable effet esthétique pour Olivier Sévère. Donc l'idée, c'est de personnaliser le plus possible, de manière à ce que chaque artiste soit exposé selon son envie, son désir, et aussi peut-être selon son talent propre, et selon ce que la Biennale de hier peut lui offrir.
Donc vous avez choisi une thématique.
Alors j'ai choisi aussi une thématique générale qui a pour but de fédérer cette pluralité d'artistes et, je l'espère, de faciliter la compréhension pour le promeneur-visiteur. La thématique, c'est inventer des mondes singuliers. Et les trois mots comptent. Inventer, parce que les artistes découvrent, fabriquent, en un mot inventent, dans ce qu'il y a d'intellectuel dans l'invention et dans ce qu'il y a de matériel dans l'invention. C'est donc une invention-fabrication. Des mondes, parce que chaque œuvre est un univers, et que 39 artistes, c'est 39 univers, plus 10 000 univers qui sont les 10 000 univers des visiteurs à venir. Et puis singulier, parce que chacun est singulier, chacun est lui-même, et peut-être encore plus singulier que nous-mêmes, chaque artiste creuse d'une certaine manière sa singularité, tout en essayant, c'est le pari que je fais, je crois que c'est le pari que font les artistes, de rendre cette singularité intéressante pour les autres et donc, d'une certaine manière, liée à de l'universel, à du partageable.
Alors, parmi ces 50 noms, en fait, sur quels critères vous êtes-vous fondé pour établir cette sélection? Est-ce qu'elle répond à une ligne esthétique particulière?
Il n'y a pas de ligne esthétique. Et surtout pas au sens de ligne, c'est-à-dire de règles tirées, et tout ce qui en sortirait ne serait pas dans la ligne. Il y a une exigence de qualité.
Donc les critères.
Voilà, exigence de qualité. Deuxièmement, réponse quand même à cela, cet esprit donné par ces trois grandes figures tutélaires, mais qui sont des figures ouvrant la liberté de créer. Un art qui n'est pas uniquement conceptuel, un art qui n'est pas géométrique, un art qui n'est pas décoratif, un art qui n'est pas commercial, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne s'échange pas. Après, il y a eu aussi des histoires, évidemment, d'affinités, d'heureuses rencontres. Mais il y a pluralité, oui, il y a pluralité esthétique.
Alors vous avez évoqué le nom d'Étienne Martin tout à l'heure, là, au début de l'entretien, comme une de ces figures majeures de la sculpture du XXe siècle. Il se trouve qu'Étienne Martin était aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts, et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander d'en parler un peu plus, mais vous l'avez vous-même dit, et vous avez placé cette sculpture dans l'orangerie. Elle a une place fondamentale et elle est fondamentale dans ce parcours qui n'est pas guidé. Mais le cri, c'est d'abord une magnifique sculpture de bois. J'aimerais que vous nous la décriviez.
Le cri, donc, c'est un platane, un fragment, un grand fragment, hein, de près de 3 mètres de haut, de platane, un tronc de platane dans lequel Étienne Martin a vu un homme, a vu une figure humaine, les bras levés, une figure humaine en train de souffrir. L'a vu, l'a taillé, l'a creusé, l'a trouvé, l'a inventé réellement. C'est vraiment ce monde-là qu'il a inventé, au point, alors c'était en 1963, donc à la fois on peut dire c'est loin d'aujourd'hui, puis en même temps, par rapport à l'histoire du monde, 63, c'est quand même pas si loin que ça. Et je crois qu'il l'a aimé ensuite, à ce point, qu'il ne l'a pas vendu, qu'il n'a pas voulu la vendre, que bien souvent, dans sa vie, quand il s'est agi de présenter telle ou telle de ses œuvres extrêmement différentes, parce que Étienne Martin, on pourrait consacrer toute une...
Vous connaissez bien, d'ailleurs.
Ah oui, justement, Étienne Martin, et on pourrait consacrer vraiment toute une émission à Étienne Martin, et plusieurs émissions. C'est un sculpteur, vraiment un grand sculpteur, un sculpteur majeur, une œuvre féconde. Et en plus, c'était aussi un homme extraordinaire. Donc, Étienne Martin, même quand on lui a demandé d'exposer des œuvres tout à fait différentes, la plupart du temps, il réussissait à imposer, à glisser, si on peut dire, parce que ça fait quand même 500 ou 600 kilos, donc ça ne se glisse pas si facilement. Il réussissait à présenter aussi ce cri, et il y tenait. Et dans une exposition que j'ai eu la chance, oui, la chance et le bonheur de faire avec Étienne Martin, qui était sur la demeure 10, une exposition, je crois, en 1996, à la Fondation de Coubertin, on avait déjà exposé ce cri.
Ouais.
Et donc... ce cri qui est d'une figure humaine, mais qui est aussi un arbre, et c'est pleinement un arbre et pleinement une figure, donc d'une part, se suffisait à lui-même, et donc on n'a que cette œuvre d'Étienne Martin, on a la chance exceptionnelle, je ne sais pas si elle entendra cette émission, que Madame Soisy-Caudoir, qui est la propriétaire actuelle de l'œuvre, ait accepté de nous la prêter, et vraiment, je la remercie plus que du fond du cœur. Et puis, c'est finalement grâce à cette œuvre-là, qui en plus n'entrait pas dans l'affaire Mornay en raison de sa hauteur, que du coup, nous avons réussi à ouvrir en plus l'orangerie qui au départ ne devait pas être réservée à la Biennale, et ce qui a permis de faire à l'orangerie la rencontre d'Étienne Martin, de Nicolas Alquin et d'Olivier Sévère. Mais c'est vrai que quand on organise comme ça une exposition, toutes les œuvres sont importantes. Mais quand même, il y a des moments où il y a des œuvres qu'on peut appeler cruciales, parce qu'on les aime depuis longtemps, parce qu'on obtient le prêt... parce que les problèmes matériels, de transport, etc., ne sont pas trop compliqués. Enfin, c'est-à-dire qu'on réussit à les résoudre. Et donc, à certains moments, on doute quand on fait une exposition. On croit qu'on ne va pas y arriver. Et là, quand on obtient la possibilité d'exposer cette œuvre-là, on commence à être un peu sûr de son coup. Et j'ai été d'autant plus sûr de moi que cette œuvre que j'aime depuis longtemps et en laquelle je crois beaucoup... quand j'en ai parlé à des artistes jeunes, leur disant un tel, peut-être que tu seras exposé à côté d'Étienne Martin de cette œuvre-là, il faisait souvent des œuvres extrêmement différentes de ce que fait Étienne Martin. Mais là, ils étaient heureux, d'une part, et honorés, mais heureux surtout. Enfin, heureux parce que parce que c'est une œuvre, c'est quelque chose qui tient, qui a une forme, qui est solide, qui est fécond, qui est généreux, qui s'impose à nos regards.
Diriez-vous que c'est la clé de la partition de votre parcours là, pour la Biennale ?
Non, ce n'est pas la clé de la partition, parce qu'il y a plusieurs clés, il y a plusieurs moments cruciaux. Et d'autre part, on est aussi... Enfin, il y a évidemment une partition, mais il y a aussi une chaîne. Enfin, pour moi, une exposition, c'est une chaîne. Et dans la chaîne, il faut qu'il y ait des maillons forts, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas de maillons faibles. Donc, tout est important, malgré tout. Et alors, simplement, au moment de la réalisation, il y a des coups de cœur. J'ai fonctionné au coup de cœur, et Étienne Martin a été un coup de cœur. Étienne Martin est un coup de cœur aussi parce que, pour tout vous dire, moi, j'ai admiré son travail longtemps avant de le connaître. Après, je l'ai connu un tout petit peu. Malheureusement, c'était l'année où il est mort, mais j'ai gardé le souvenir, et vraiment, d'un homme d'une générosité humaine et aussi d'une gentillesse. J'en ai reparlé très très souvent à beaucoup d'autres qui m'en ont eux-mêmes parlé, de cette gentillesse féconde d'Étienne Martin. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important, et évidemment qu'avec Jean Dubuffet, qui est une très grande figure historique, qui est un très grand sculpteur, que je n'ai pas connu, mon rapport humain avec ses œuvres est extrêmement important, mais quand on n'a pas connu l'homme, ce n'est pas la même chose.
Il y a une œuvre de Dubuffet à l'entrée, j'allais dire, du parc, qui effectivement est un peu comme le phare là.
Voilà, exactement, et c'est aussi une clé.
C'est pour ça que ça a été une clé.
Mais disons qu'il y a la fondation Dubuffet, il y a Dubuffet qui est mort quand même en 85, donc finalement, moi je commençais à peine à m'intéresser à l'art à l'époque. Donc, bon, et puis Dubuffet, une sorte de valeur vraiment tellement consacrée dans tous les musées que ça fait moins un coup de cœur d'exposer Dubuffet. Mais le Dubuffet dans le parc, j'en suis aussi pleinement heureux.
Étienne Martin est peut-être moins connu du grand public.
En plus, Étienne Martin est moins connu du grand public. Alors,
comment peut-on l'expliquer ?
On peut l'expliquer parce que...
Alors que visiblement, ça semble la grande référence de cette chaîne des sculpteurs.
Oui, c'est une référence, mais il y a d'autres références. Bon, Étienne Martin est un homme qui a été quand même assez fortement connu dans le monde de la sculpture, surtout dans les années 60, 70, 80. Ensuite, il est vrai qu'il n'a pas fait dans sa vie d'œuvres bidimensionnelles, il n'a pas fait de peinture. Et à partir du moment où on ne fait pas de peinture, on souffre d'un déficit de notoriété en France. C'est un point important, un point réel. Alors, dans le monde, en effet, des sculpteurs, ou dans le monde des artistes en général, Étienne Martin est vraiment connu. C'est vrai qu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu aussi un purgatoire autour d'eux. Il a été enfermé dans un purgatoire et il en ressort à peine. Mais en tout cas, dans le monde des amateurs d'art, il est vraiment connu. Il n'a pas vraiment franchi cette barrière du grand public. Évidemment, parmi les sculpteurs, celui qui a franchi cette barrière du grand public dans ces années-là, c'est César. Et il y a finalement quasiment que César qui a franchi cette barrière du grand public. On ne connaît pas les noms des sculpteurs.
Il y a un autre sculpteur de l'Académie que vous avez aussi choisi d'exposer, qui est Eugène Dodaigne, qui est toujours en vie, qui est un vieux monsieur. Lui aussi, très apprécié du monde des artistes et des sculpteurs. Là encore, comme une grande référence et une figure presque tutélaire aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter alors cette sculpture qui là est à l'extérieur ? Elle est magnifique, c'est un grand oiseau, c'est son nom, c'est de la pierre.
Je vous laisse parler de la pierre de Dodaigne. Voilà, c'est la fameuse pierre de Soigny, celui qu'on appelle le granit de Belgique, que taille Eugène Dodaigne, qui habite dans le nord de la France, à côté de Lille, à Bondu, qui taille donc cette pierre toute proche de l'endroit où il habite et qui la taille depuis la fin des années 50, depuis 1960. Donc c'est pas nouveau pour lui. C'est une pierre qui, d'une certaine manière, ne se taille pas. C'est une pierre qui éclate. C'est une pierre qui est impossible à tailler. Alors, il y a, chez Dodaigne, le choix de l'impossible. Et c'est un choix de l'impossible qu'il fait très tôt. Et en même temps, ce choix de l'impossible, il le réussit, puisqu'il réussit à tailler. Puisqu'il réussit à faire exploser cette pierre. Et qu'en la faisant exploser, il y a une forme qui existe, qui est importante et qui tient. Et Dodaigne est celui qui a créé ces figures... Parfois ces fantômes, là c'est pas le cas en l'occurrence, mais ces figures, ces groupes de figures aussi exceptionnels, là on n'a pas non plus un groupe, mais on peut pas tout avoir ailleurs, qui sont vraiment extrêmement importants. Alors ce grand oiseau de nuit, bon, c'est une sculpture que Dodaigne a choisie lui-même, qui appartient à sa collection. Il l'a choisie après avoir exposé dans les deux premières biennales des sculptures plus petites, parce que...
Il avait déjà exposé,
voilà, exactement, il avait déjà deux fois exposé. Ouais. Alors, ce n'était pas forcément des œuvres de sa collection, mais il avait exposé volontairement. Et quand il y a une manifestation pour la sculpture de qualité, Dodaigne, que ça soit connu, pas connu, qu'il y ait des moyens financiers, pas de moyens financiers, peu importe, quand ça vaut la peine, il y va. Et puis, même quand c'est très médiatique, et qu'il pourrait peut-être y avoir de l'argent à gagner, mais que ça ne vaut pas la peine, il n'y va pas, hein, jeune de daigne, on ne va pas le changer à son âge. Et il a la solidité, la force d'un homme du Nord et d'un artiste vraiment inébranlable d'une certaine manière. Et cette œuvre, ce grand oiseau, il me semble aussi que dans le parc de hier, où il y a des enfants, ce n'est pas une sculpture pour enfants, hein, mais enfin, malgré tout, pour enfants, il peut peut-être quand même être peut-être parfois plus facile à apprécier que d'autres. C'est une œuvre qui est très forte, très solide. Comme toujours chez Daudaigne, il y a de la tendresse, de la subtilité. Il ne faut pas voir en Daudaigne un homme de pierre, un homme de la pierre taillée au sens de la dureté et simplement du poids. Il ne s'agit pas de faire 2 tonnes et d'en faire 3, parce que 3 tonnes, ça serait mieux que 2 tonnes. Ce n'est pas du tout ça. C'est un homme du sourire, c'est un homme de la subtilité, c'est un homme de la tendresse. Mais tout cela se voit lorsqu'on regarde précisément l'équilibre dans le détail des œuvres, lorsqu'on regarde tel ou tel fragment taillé, avec peut-être des outils extrêmement impressionnants, mais toujours taillé avec une très très grande humanité. C'est pour ça que Daudaigne, homme très âgé à l'heure actuelle, est vraiment un des grands sculpteurs très apprécié en Allemagne, par exemple, sans doute beaucoup plus connu en Allemagne, beaucoup plus connu en Belgique qu'en France. Il est vrai aussi qu'il a vécu, je crois, à Paris ou en région parisienne, très peu de temps au début des années 50, qu'il a été très heureux de repartir chez lui dans le Nord pour ne pas perdre du temps dans des phénomènes de mode ou autre, et que donc sa solitude, il l'a choisie. Bon, c'est une solitude relative, puisqu'il y a une série de connaisseurs, de poètes, de musiciens qui l'accompagnent dans son travail, mais auprès du grand public, c'est tout de même une figure largement méconnue.
Alors, c'est une œuvre de 92, oui. Donc il sculpte toujours ?
Non, je ne crois arrêté, pas qu'il sculpte vraiment. Je crois que maintenant, il s'est arrêté âgé. Et que là, vraiment, il n'est pas très, très en forme et que donc, il ne peut plus sculpter. Pendant très longtemps, Daudaigne a été un peu âgé, sculptant encore, dessinant quand il ne pouvait pas sculpter. Je crois que maintenant, il n'a plus vraiment beaucoup d'énergie physique, hein. L'énergie mentale, c'est autre chose, à mettre dans la sculpture, parce que simplement l'âge est venu. D'autre part, la sculpture, évidemment, c'est de l'ordre de l'invention, et de l'invention qui est mentale.
Quel est le monde singulier de Daudaigne ?
Le monde singulier de Daudaigne, c'est le monde de cette pierre dressée, de cette pierre levée qui dit la vie qui se relève, la vie qui tient, qui est solide, qui pourtant nous fait aussi un sourire et qui est finalement inébranlable dans sa force. Vous savez que le père de Daudaigne, c'était un tailleur de pierre qui taillait pour les cimetières. Et Daudaigne, il est parti de là, il est parti de cette sculpture pour les cimetières et lui, il a fait une sculpture pour la vie et une sculpture qui lève ses tonnes et ses tonnes pour nous magnifier, pour manifester surtout la force de cette vie. Et vous avez des œuvres de Daudaigne dans les années 60, 70, qui partent de la douleur et qui tout à coup réussissent à exprimer quelque chose qui tient. Daudaigne, c'est une sculpture qui se tient debout dans l'espace. Et une sculpture qui se tient debout dans l'espace, c'est ce qu'on appelait autrefois une statue. C'est l'étymologie, évidemment, du mot statue. Alors, je ne dis pas que Daudaigne fasse simplement des statues, c'est beaucoup plus. Mais avec Daudaigne, la sculpture redevient ce qu'elle est, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, mais ce qu'elle est quand elle est réinventée, cette façon de faire tenir des formes debout dans l'espace.
Comment les jeunes sculpteurs perçoivent ou se sont fait les héritiers de ces deux noms qu'on vient d'évoquer, Étienne Martin et Daudaigne, qui sont des mondes singuliers tout à fait différents, dans des registres différents, des écritures différentes. Qu'est-ce que vous percevez, vous, en réalisant une biennale comme ça, au-delà des impressions, des émotions, des œuvres qui dialoguent entre elles, est-ce que vous percevez justement une chaîne ou qui pourrait reprendre ou qui reprend tel fragment ou telle réponse peut-être que ça ne se fait pas, hein, je ne sais
non,
pas.
Non, c'est évidemment très variable. Il y a au moins deux types de rapport peut-être à cet héritage. D'un côté, vous avez des artistes qui parfois d'ailleurs sont allés voir Daudaigne, sont allés le rencontrer comme un grand maître, pas pour faire du Daudaigne, mais parce que des questions assez proches, ils se les sont posées, parfois dans le bois, et puis ils y ont répondu à leur manière. Par exemple, Nicolas Alquin, dans le bois, et de manière très différente, à sa manière, il est dans cet héritage de Daudaigne. Mais vous avez aussi un autre type d'artistes, des artistes très différents, qui ne sont pas, pour le coup, allés voir Daudaigne, qui peut-être ne feraient pas non plus des centaines de kilomètres pour aller voir une sculpture de Daudaigne, mais qui, quand ils en voient, la comprennent, parce qu'ils la comprennent en sculpteur. Et eux-mêmes, en sculpteur, peuvent travailler peut-être plus sur l'horizontale que sur la verticale, plus sur la légèreté que sur le poids. Donc, ils ne sont pas du tout dans le même univers singulier. Mais il me semble qu'ils se posent les mêmes questions et ils leur donnent à ces questions des réponses extrêmement différentes. Donc, ce n'est pas une filiation, mais c'est plutôt une sorte d'appartenance à la famille des sculpteurs, à la famille de ceux qui se posent la question de ce que c'est qu'être debout dans l'espace, de ce qu'une forme horizontale peut vouloir dire dans l'espace, de ce qu'est la légèreté, de ce qu'est le poids, de ce que la douleur de vivre peut s'exprimer dans une forme tridimensionnelle. Et de ce point de vue-là, des sculpteurs très très différents esthétiquement de Daudaigne peuvent entretenir des rapports avec son art.
Merci Paul-Louis Ruinuy de nous avoir parlé comme ça de Daudaigne, parce qu'on ne l'a jamais reçu à Canal Academy et c'est un grand regret. On va essayer d'aller le voir très très vite pour recueillir sa voix sur ça. Il ne peut pas faire le déplacement, donc...
Normalement, je pense que quelques-uns de ses enfants seront là, puisque Daudaigne très vite disait que lui voyageait peu, mais qu'il voyageait uniquement pour voir ses œuvres. Et que donc, finalement, comme ses œuvres voyageaient, il est allé un peu partout, ici ou là, chaque fois qu'il y avait des œuvres exposées. Bon, maintenant, c'est vraiment hors de question. Et donc, moi, il m'a dit que ses enfants seraient là. J'espère les voir tout à l'heure. Lui, en tout cas, Eugène Daudaigne, je le salue vraiment du fond du cœur.
Paul-Louis Ruinuy, merci. Merci beaucoup et à bientôt.